le rendez-vous d'Amnesty International.
Bonjour, c'est Jean-Marie d'Amnesty International qui vous retrouve pour l'émission mensuelle sur Radio FM+. Aujourd'hui, je suis tout seul et je vais vous parler de la Turquie pour commencer, avec une nouvelle inquiétante qui est le retour de la torture, pratique révolue, qui réapparaît dans une indifférence inquiétante. Je brosse la situation. Nous sommes dans l'aéroport de Rangoon, en Birmanie, en mai 2017. Furkan Sökmen filme en direct son enlèvement à l'aide de son smartphone. Il tente de résister à un embarquement qui va le ramener contre sa volonté en Turquie, son pays d'origine. « Je vous en prie, s'il vous plaît, aidez-moi, je suis dans le terminal, il me force !» panique ce professeur dans une école de la confrérie de Fethullah Gulen, l'imam accusé par Erdogan d'être l'instigateur du coup d'État manqué en 2016. Depuis, les autorités turques traquent leurs membres dans le monde entier. Le passager récalcitrant est menotté, traîné de force vers l'avion. Il se met à hurler. « À l'aide, ce n'est pas démocratique, je vais être torturé, ne faites pas ça, ne faites pas ça !» Ses cris se perdent dans l'abîme des réseaux sociaux. À la lecture des rapports sur l'usage de la torture après le putsch raté, la frayeur de Furkan Sökmen est aisément compréhensible. Les Nations Unies, le Conseil de l'Europe, des ONG locales et internationales, dont la nôtre, se sont alarmés de son utilisation massive par les forces de l'ordre dans le cadre de la répression qui s'est abattue sur la Turquie à partir de juillet 2016. Si elle semble avoir diminué un peu ces derniers mois, elle est cependant à nouveau tolérée. Son retour pose une question abyssale. Comment un pays engagé dans la voie des droits humains a-t-il pu faire volte-face si rapidement et renouer avec cette négation ultime de l'intégrité individuelle? Tranquillement, silencieusement, comment reprendre une vieille habitude un temps délaissée? L'écrivaine Oya Bedar a été emprisonnée pendant un an après le coup d'État militaire de 1971, celui-là, et torturée. Elle dit « À l'époque, c'était un peu le parcours obligatoire pour un intellectuel de gauche. Le putsch du 12 septembre 1980, qui a conduit à 650 000 gardes à vue, en fit un usage à grande échelle. Mais au cours de la première décennie des années 2000, des réformes suscitées par les négociations d'adhésion à l'Union européenne ont fait entrer le droit dans les centres de détention et les commissariats. Sans complètement disparaître, la torture avait grandement reculé. Cette fois-ci, dit-elle, on espérait qu'on en avait vraiment fini, que ça appartenait au passé. Durant ces années de démocratisation accélérée, le réalisateur américain Oliver Stone s'était même excusé auprès des autorités pour avoir forcé le trait du scénario du film Midnight Express. La difficulté actuelle consiste à documenter les faits et à les prouver. Emma Webb-Sinclair, responsable Turquie à Human Rights Watch, dit « Le climat de peur rend très difficile la mesure de l'ampleur du problème. » La majorité des médias, alignés sur le gouvernement, n'en parlent pas. Les victimes présumées et les associations des droits humains déplorent l'absence d'enquête judiciaire sur les accusations de torture en garde à vue. Les magistrats savent que demander des comptes sur ces pratiques risque de leur coûter leur poste du jour au lendemain, voire de les envoyer à leur tour derrière les barreaux. Les forces de l'ordre chargées de la lutte antiterroriste bénéficient, elles, d'une impunité quasi totale. Une série de lois leur garantit l'absence de poursuites pour des crimes commis dans l'exercice de leurs fonctions. Malgré la fin de l'état d'urgence, la suppression des garde-fous juridiques facilite le passage à l'acte. D'autant que les exactions ont été encouragées par le gouvernement. Le gendre d'Erdogan, Berat Albayrak, est désormais ministre des Finances, a ainsi déclaré publiquement « Si je voyais des gulenistes, je les étranglerais ». Les victimes sont donc majoritairement des gulenistes, partisans de Fethullah Gulen, et des Kurdes, tous accusés d'appartenir à une organisation terroriste. Et ils se trouvent actuellement en prison, et leur témoignage direct ne peut donc pas être collecté. Difficulté supplémentaire, les sympathisants de la confrérie Gulen n'ont pas la culture politique de demander de l'aide aux associations des droits humains, ni de mettre en cause l'État, par peur des représailles contre leur famille. Ces menaces sont très répandues. Kerem, nom d'emprunt, rencontré à Thessalonique où il est parvenu à fuir, a raconté les tortures subies pendant 11 jours dans un sous-sol du département de l'antiterrorisme à Ankara. Les policiers l'ont également menacé de violer son épouse s'il ne signait pas de faux aveux. Nous avions interdiction de parler entre nous, mais un autre prisonnier croisé aux toilettes m'a dit qu'il avait été violé avec une matraque. De nombreuses histoires d'abus sexuels circulent, évidemment difficilement vérifiables. Au fil des décennies, les Turcs ont intériorisé le fait que leur État n'avait pas vocation à garantir leur intégrité, mais à défendre ses intérêts, et qu'il s'agissait d'une constante, quel que soit le gouvernement en place. L'histoire de Pinar Selek, universitaire réfugié politique en France, l'illustre parfaitement. En 1998, cette sociologue, accusée d'avoir commis un attentat dans le bazar aux épices à Istanbul, est arrêtée. Pendant les séances de torture, ces bourreaux pratiquent leurs sévices, galvanisés par une chanson ultranationaliste, « Ma Turquie, ma Turquie ». Finalement, l'enquête conclut que l'explosion qui a fait deux morts n'avait pas été causée par une bombe, mais par une fuite de gaz dans un restaurant. Dans n'importe quel pays démocratique, Pinar Selek aurait été immédiatement innocenté, réhabilité, indemnisé. La justice turque, elle, n'a pas cessé de s'acharner contre cette militante des droits humains. Acquittée à quatre reprises, elle est de nouveau menacée d'une condamnation à perpétuité, réclamée par le procureur de la Cour suprême. Et cette farce kafkaïenne dure depuis 20 ans. Le printemps démocratique des années 2000 n'est pas parvenu à modifier le noyau dur de l'État. Les changements étaient superficiels, pas structurels. Omar Bédard, toujours elle, dit « Le nationalisme est la tradition de notre État et il a augmenté de façon incroyable ces dernières années. Lorsqu'un Kurde est torturé, nous réagissons avec notre esprit nationaliste. C'est le PKK, ce sont des terroristes, on s'en fout. Avec le nationalisme, nous nous sommes habitués à la mort, au sang. Nous avons perdu notre humanité. » En 1915, lorsque le génocide s'est déclenché, l'Arménien était celui qui plantait un couteau dans le dos de la nation turque, selon la propagande. Aujourd'hui, dans la conscience collective, c'est le Kurde, le guléniste, l'intellectuel, le militant des droits humains. Comment expliquer cet accommodement d'une grande partie des Turcs ? En Turquie, les théories du complot et des ennemis de la nation irriguent les cerveaux dès l'école maternelle. Elles nourrissent une paranoïa généralisée, le fantasme d'un État en danger permanent que tout bon Turc doit défendre. Edem Eldem, titulaire de la chaire de l'histoire turque au Collège de France, expliquait l'ancienneté de cette perception lors d'un colloque sur la dérive autoritaire en Turquie. Le repli ottoman vers la fin du XIXe siècle a créé une autre modernité, une modernité beaucoup plus sombre, axée sur la violence et sur l'exclusion. Il suffit donc aujourd'hui au gouvernement de prononcer le terme « terroriste », ennemi ou traître, pour déshumaniser son adversaire et autoriser dès lors toutes les exactions. L'avocate et militante des droits humains, Eren Keskin, observe les ravages dans les consciences de ses concitoyens. Dans les années 1990, les autorités cachaient le recours à la torture. Une certaine gêne existait. Plus maintenant. Tout le monde sait ce qui se passe. Aujourd'hui, à partir du moment où une personne est désignée comme terroriste, la torture est non seulement acceptée, mais soutenue par la population. Il n'y a qu'à lire les commentaires horribles sur les réseaux sociaux. C'est ce qui m'effraie le plus. Erdogan a poussé à l'extrême la polarisation de la société. Le pouvoir ne peut désormais survivre que grâce à la radicalisation. Moins il produit de sens et plus il a besoin d'un ennemi intérieur. Analyse Hamid Bouzarsian, directeur d'études à l'École des hautes études en sciences sociales. Nous en sommes arrivés à un point où une vie peut être enlevée sans que cela pose un problème éthique ou juridique. L'État a le droit de dire qui est l'ennemi. Dans une Turquie où Erdogan impose une fusion charnelle entre lui et son peuple, l'individu, esselé, n'est plus capable de penser par lui-même, conformément au processus décrit par Hannah Arendt. La société turque, assommée, paralysée, est devenue silencieuse. Quand se réveillera-t-elle ? C'est toujours Jean-Marie sur les ondes de FM+, pour l'émission mensuelle d'Amnesty International. Je voudrais vous parler dans cette deuxième partie du sort des réfugiés, et oui, encore et toujours les réfugiés, et parler de l'histoire d'un sabordage en bande organisée qui est celui de l'Aquarius. Vous vous souvenez de l'Aquarius ? À l'automne 2014, je foule le sol de Lampedusa. C'est Jean-François Dubost, responsable du programme Protection des populations d'Amnesty International, qui parle. Parmi les images à jamais gravées dans ma mémoire, le cimetière des bateaux, mélange de coques de bois aux couleurs vives, d'odeurs d'huile et d'essence. Et puis, à l'autre bout de l'île, je découvre le cimetière des humains et son carré réservé aux morts inconnus de la mer, avec pour seule identité la date de leur décès. Un an après, le gouvernement italien met en place Mare Nostrum, opération assumée de recherche et de sauvetage, qui mobilise des moyens humains et matériels considérables afin d'éviter, autant que possible, de nouveaux drames. Pas moins de 20 000 personnes ont été sauvées par la volonté et les décisions du gouvernement, l'engagement des militaires italiens et l'aide des populations côtières italiennes. L'ambiance était bien différente dans les chancelleries européennes. Je me souviens d'une rencontre avec un conseiller du ministre de l'Intérieur français, se lançant dans des démonstrations arithmétiques pour dénigrer Mare Nostrum. Plus de navires pour sauver des vies incitaient davantage de personnes à prendre la mer depuis la Libye et augmentaient le taux de mortalité en Méditerranée. Dans les salons confortables d'un ministère parisien, l'odeur de l'essence de Lampedusa et le bois meurtri des frêles embarcations me semblaient bien loin. À force de le répéter et de l'entendre de toutes parts, nombre d'officiels ont fini par donner un caractère d'évidence à cette fameuse théorie de l'appel d'air, dogme dont la simple remise en cause reléguait son auteur au rang de doux rêveur, de naïf ou d'inconscient. L'Italie était donc seule. Elle saura s'en souvenir plus tard avec l'élection de candidats mettant justement en avant l'abandon de leur pays par le reste de l'Union européenne. À la fin de l'automne 2018, 5 ans après, l'Aquarius est contraint de mettre un terme définitif à ses opérations de recherche et de sauvetage en Méditerranée. C'est l'épilogue d'une bataille entre les gouvernements européens, dont celui de l'Italie, et une partie de la société civile. Des bateaux civils à l'initiative d'ONG avaient pris le relais des États européens au fur et à mesure que ces derniers désertaient la Méditerranée centrale pour apporter un soutien financier, mais surtout politique, aux gardes-côtes libyens, pourtant responsables de graves violations des droits humains. Contre les ONG, les attaques se firent plus précises, dénonçant explicitement leurs liens supposés avec les trafiquants de migrants. Résultat, tracasseries administratives, ouverture d'enquêtes judiciaires, immobilisation de navires et enfin fermeture des ports et retrait de pavillons. Au final, 2262 migrants sont morts en Méditerranée en 2018. Et l'Aquarius est au port, fier d'avoir sauvé des vies, brimé de ne plus pouvoir le faire. Il s'agit d'une défaite, cruelle et sans appel, un sabotage en bande organisée. Alors à propos du mur, il est toujours question des réfugiés, pas question de débloquer 5,7 milliards de dollars pour un projet immoral de mur à la frontière mexicaine. C'est en somme ce qu'ont dit les démocrates qui ont remporté les élections de mi-mandat à Donald Trump. « The wall is coming », avait pourtant assuré le président. Le mur est l'une de ses principales promesses de campagne et aujourd'hui, nul ne sait s'il sera fait. À propos des réfugiés, toujours, je voudrais vous parler du Danemark. Bon, État considéré comme un des plus démocratiques de l'Europe, hein, notamment de l'Europe du Nord. Mais Shakespeare écrivait déjà qu'il y avait quelque chose de pourri au royaume du Danemark, dans Hamlet. Hein. Dans ce pays, donc, membre de l'Union européenne, le Parti du Peuple, raciste et xénophobe, a le vent en poupe. Il soutient le gouvernement de coalition et espère conserver sa première place aux élections obtenues en 2014 avec près de 27% des voix. Son credo, trop d'étrangers, trop d'immigration. Alors le gouvernement de coalition en rajoute dans le tout répressif. Le projet de budget, adopté par le Parlement fin décembre, passe d'une logique d'intégration à une logique de renvoi. Réduction des prestations sociales, suppression de la garantie de logement, plafond pour les regroupements familiaux, autant de mesures destinées à briser les personnes, selon Trine Christensen, directrice d'Amnesty Danemark. Mais le pire reste à venir, avec la création sur l'île de Lindholm, d'un centre de rétention destiné aux étrangers coupables de crimes au Danemark ou dans leur pays, et qui ne peuvent être extradés car ils risquent la peine de mort, mais aussi aux déboutés du droit d'asile. Ce centre de 125 places devrait ouvrir en 2021 dans un endroit actuellement inhabité. Cette démarche n'est pas sans rappeler celle du gouvernement australien qui parque les migrants indésirables dans une autre île isolée, Nauru. Interrogé par l'AFP, Démétri Papa Démétriou, fondateur de l'Institut européen des migrations, estime que la politique migratoire danoise est un cas unique de dureté et d'intolérance en Europe. Les milliers de personnes qui ont manifesté le 11 décembre à Copenhague contre ces mesures l'ont bien compris. Paradoxalement, le Yémen, pays dont on sait qu'il subit une guerre civile depuis près de 4 ans maintenant, est plus accueillant que l'Europe. En effet, 150 000 migrants y sont arrivés l'année dernière, en 2018, la plupart venant d'Éthiopie, via Djibouti, et ils souhaitaient se rendre en Arabie Saoudite. Et les flux migratoires vers le Yémen entre 2017 et 2018 ont augmenté de 50% et 134 000 migrants sont entrés illégalement en Europe l'année dernière. Voilà. Dernière partie de l'émission d'Amnesty International sur les ondes de FM+. Un communiqué inquiétant d'Amnesty publié le 18 février dernier fait état d'armes belges utilisées par les milices yéménites. On était au salon de l'armement IDEX, le plus important du Moyen-Orient, qui s'est tenu il y a quelques semaines à Abu Dhabi, aux Émirats Arabes Unis. Les grandes entreprises du secteur exposaient leurs meilleures ventes et leurs nouveautés technologiques dans le domaine de la défense. Les commandes s'y chiffraient en milliards de dollars. Les dépenses militaires sont en effet à leur plus haut niveau depuis la fin de la guerre froide. Et lors du salon de l'armement, des armes belges sont présentées, armes déjà utilisées par des milices yéménites, soutenues et financées par les Émirats Arabes Unis. Et d'après les brochures publicitaires du salon de l'armement IDEX, la Minimi compte parmi les milliers de types d'armes à disposition et à la vente. Alors la Minimi, c'est un nom charmant, hein, ça fait penser à Walt Disney presque. Hein. Alors Minimi pour mini-mitrailleuse. Eh oui, c'est une mitrailleuse légère, conçue par la fabrique nationale de Herstal en Belgique dans les années 1970. C'est une mini-mitrailleuse moins puissante qui porte donc moins loin que les munitions généralement utilisées dans les mitrailleuses moyennes. Mais avantage, elle est moins encombrante et offre donc une arme plus mobile qui peut être maniée par un homme seul, bon, voire une femme, hein, et dotée d'une importante puissance de feu qui lui permet de procurer un appui efficace du point de vue défensif et offensif. Elle a une portée pratique supérieure au fameux fusil français FAMAS. Hein. Performance, alors je vous les donne quand même, ça fait un peu rêver. Portée maximale 2700 mètres, soit 2,7 km. Et ça peut perforer à 240 mètres des blindages de 10 mm d'acier doux, d'un centimètre. Bon, c'est quand même énorme. Hein. Donc elle est fabriquée par la firme nationale Herstal en Belgique. Elle fait partie d'un éventail d'armes vendues par les autorités belges wallonnes à la coalition que dirigent l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis ces dernières années pour être utilisées dans le conflit armé qui ravage le Yémen. Et le problème, c'est que ces armements ont été utilisés par les Brigades des Géants, milice yéménite soutenue et financée par les Émirats Arabes Unis, mais qui n'est placée sous le contrôle d'aucun gouvernement. Donc Amnesty dénonce le fait choquant de voir Herstal vendre allègrement des mitrailleuses aux Émirats Arabes Unis, alors qu'on a dénoncé le fait que les Émiriens ont cédé illégalement cette arme à une milice au Yémen qui n'a aucun compte à rendre. Et Amnesty souhaiterait donc que les autorités belges ne vendent plus ces armes aux Émirats Arabes Unis, hein, qui les détournent sans vergogne vers des groupes combattants, dont certains commettent des crimes de guerre au Yémen. Le ministre président de la région belge wallonne a demandé la tenue d'une enquête en réponse à nos conclusions publiées il y a quelques semaines. Et on voudrait bien connaître les résultats de cette enquête. Et on espère qu'elle amènera des changements de politique qui permettront à la Wallonie, puisque c'est la région wallonne, de respecter ses obligations internationales. En effet, on rappelle que la Belgique a signé le traité sur le commerce des armes et qu'il y a une position commune de l'Union européenne sur les exportations d'armes qui empêche ce pays de ne pas approvisionner en armement la coalition qui combat au Yémen. Selon les données publiques, depuis le début du conflit au Yémen en mars 2015, donc ça va faire 4 ans, les États occidentaux et d'autres ont vendu pour au moins 3,5 milliards de dollars américains d'armes aux Émirats arabes unis. D'armes classiques lourdes, comme des avions et des navires, mais aussi d'armes de petit calibre, d'armes légères, de pièces détachées et de munitions. Certaines de ces armes, donc, je l'ai dit, se trouvaient entre les mains des Brigades des Géants et d'autres forces combattantes au Yémen qui, elles, ne sont pas soumises à l'obligation de rendre des comptes. La prolifération de ces groupes est le meilleur moyen de provoquer une catastrophe pour les civils yéménites, dont plusieurs milliers ont déjà été tués, tandis que des millions sont au bord de la famine en conséquence directe de la guerre. L'ONU a dénoncé la plus grande catastrophe humanitaire depuis des dizaines d'années. Un rappel pour terminer, qui n'est pas glorieux, la France a livré aux Émirats arabes unis pour plus de 920 millions d'euros de matériel de guerre entre 2015 et 2017. Elle a également fourni jusqu'à ce jour les prestations de maintenance en condition opérationnelle des chars Leclerc, livrés bien avant le début du conflit, et déployés dans le cadre de l'offensive terrestre au Yémen. Voilà, hélas, alors dans le cadre des mauvaises nouvelles, un bilan triste qui vient de sortir en 2018, qui dénonce une année record pour les civils tués en Afghanistan. On ne parle pas beaucoup de ce pays, hein, l'Afghanistan. Alors c'est un rapport de l'ONU qui révèle donc que l'année 2018 a été la plus meurtrière pour les civils victimes du conflit afghan, les civils, hein, avec 3804 décès. Le nombre d'enfants tués a également atteint le pic de 927. 32 000 morts depuis le début du conflit. Selon la mission de l'ONU en Afghanistan et le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits humains, ces décès sont en augmentation de 11% par rapport à 2017. Depuis 2014, au moins 3500 civils meurent chaque année des conséquences de la guerre en Afghanistan. En 10 années de recensement des victimes civiles, les Nations Unies ont dénombré 32 000 morts et 60 000 blessés. 24% sont des victimes collatérales des forces pro-gouvernementales. Selon l'ONU, les facteurs clés qui ont contribué à cette augmentation significative du nombre de décès sont le ciblage délibéré des civils lors d'attaques suicides menées par les groupes insurgés, ainsi que les bombardements aériens et les combats au sol opérés par les forces pro-gouvernementales. Ainsi, si les deux tiers des morts sont imputés aux groupes rebelles, 37% aux talibans, 20% à l'État islamique et 6% à d'autres groupes, un quart sont des victimes collatérales des forces pro-gouvernementales. C'est la première fois, note le rapport, que les opérations aériennes se traduisent par la mort de plus de 500 civils, attribuant 393 décès à la coalition internationale de l'OTAN et 118 à l'armée de l'air afghane. Voilà, triste bilan, à peut-être à la veille du retour des talibans au pouvoir. L'avenir le dira bientôt. Merci de votre écoute. À bientôt. Au revoir.